BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h01, c'est reparti, deuxième heure de Good Evening Business jusqu'à 20h en direct. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir Alex.
Et donc, dans l'actualité ce soir, il y a cette nouvelle réforme de l'assurance chômage vers laquelle on se dirige tout droit. Gabriel Attal tout à l'heure aux 20h de TF1 pour faire des annonces. Pas de chance, c'est le jour où le gouvernement essaie de rassurer les agences de notation que Moody's a dégainé un taquet, pardon pour l'expression, sur les finances publiques. On va voir ça avec Thomas Asportas. Et puis on en reparle bien sûr avec nos experts qui vont revenir dans un quart d'heure en direct. Bien sûr.
Et oui, avec les experts, on vous parlera aussi de la France qui continue à créer toujours plus d'usines. Roland Lescure a partagé les chiffres ce matin sur BFM Business. Alors la grande question, c'est en crée-t-elle assez? On y répondra dans un instant. On parlera aussi de Casino. Ça y est, une page se tourne. La nouvelle direction a pris les commandes aujourd'hui. Il faudra relancer le groupe tout en gérant un énorme plan social.
Alors, qui sera avec nous pour parler de tout ça? L'économiste Bruno Coquet de l'OFCE, Benjamin Coria pour les économistes atterrés et Julien Damon, professeur associé à Sciences Po, au Lécoeur, jusqu'à 20h en direct sur BFM Business.
Bien sûr. À tout de suite.
Good Evening Business, le journal.
Donc Gabriel Attal attendu tout à l'heure aux 20h de TF1 après un séminaire gouvernemental ce matin sur le travail. Bonsoir Thomas, on se dirige donc vers une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Thomas.
L'engagement de mon gouvernement pour le retour à l'emploi est total, c'est ce qu'a tweeté Gabriel Attal, effectivement, à l'issue de ce fameux séminaire gouvernemental. Le Premier ministre va donc s'expliquer ce soir pendant une trentaine de minutes et d'après son entourage, il va, je cite, exprimer sa volonté très ferme d'avancer sur le dossier et donner les leviers et le calendrier de la réforme. Donc on va y voir plus clair et savoir concrètement quelle piste le gouvernement va retenir. Est-ce que c'est la baisse de la durée d'indemnisation qui est aujourd'hui de 18 mois dans le régime général? Est-ce que c'est la baisse de la durée d'indemnisation mais uniquement des seniors pour l'aligner sur le régime général? Dans ce cas-là, pour les plus de 55 ans, on passerait de 27 à 18 mois. Ou alors, dernière piste, est-ce que c'est durcir les conditions d'éligibilité? Aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers pour avoir droit à des allocations. Ben, peut-être que ce sera plus que 6 mois à l'avenir.
Bon, donc les annonces de Gabriel Attal tout à l'heure à 20h. Et alors, on le disait, pas de chance au milieu de toutes ces annonces censées rassurer entre autres les agences de notation. Ben oui, c'est comme ça. Moody's a refroidit l'ambiance sur les finances publiques, c'est le moins qu'on puisse dire là, Thomas, aujourd'hui.
Ah oui, oui, bah alors là, c'est un euphémisme, vous dites Guillaume. L'agence, effectivement, n'a pas tardé à réagir à la publication des comptes publics de l'INSEE hier. Ouais. Et juste, je cite, c'est le mot, et il est important, improbable, l'objectif du gouvernement de revenir à 2,7% de déficit en 2027. Elle juge aussi improbable et réemploie le même mot, l'objectif de 4,4% de déficit pour cette année. Elle rappelle qu'il faudrait réduire le déficit de plus d'un point en un an, ce que la France n'a réussi à faire qu'une seule fois depuis l'an 2000. Hors Covid, évidemment, des années exceptionnelles. Et de manière plus générale, l'agence de notation critique la stratégie de finances publiques de la France à moyen terme, qui repose, je cite, sur des hypothèses de croissance et de recettes optimistes et sur des économies sans précédent et toujours pas documentées. Enfin, elle anticipe une légère remontée de la dette tous les ans, sauf si la France engage un effort d'économie très significatif. Moody's précise que ce n'est pas un avis de notation à proprement parler, mais bien évidemment, ce n'est pas très engageant en vue de la note qui tombera, elle, très officiellement, le 26 avril.
C'est-à-dire dans un mois à peu de choses près. Oui. Merci beaucoup, Thomas Asportas, et puis on continue bien sûr de parler de tous ces sujets jusqu'à 20h avec nos experts sur BFM Business. Sinon, dans l'actualité ce soir, alors je vous disais, grande journée chez Casino. Bonsoir Pauline Tadevin.
Bonsoir.
Grande journée parce que, alors, ça y est, on ne sait pas encore vraiment, c'est aujourd'hui en tout cas que la nouvelle équipe dirigeante
d'ici
était censée arriver. D'ici ce soir, voilà, ça va être officiel d'ici quelques instants. Avec beaucoup de défis à gérer, et le premier d'entre eux, bien sûr, c'est de gérer ce gros plan social qui se précise, Pauline.
Oui, un plan social qui s'annonce lourd déjà, notamment pour le siège historique de Casino à Saint-Etienne. Il y a 1800 salariés sur ce siège de Saint-Etienne. Près de 80% d'entre eux travaillaient sur les hyper et les supermarchés qui ont été cédés ces derniers mois à la concurrence. D'après nos informations qui confirment celles qui ont été déjà publiées par nos confrères de La Lettre, le plan social pourrait entraîner le départ de 1000 à 1200 personnes d'ici mi-août. Rien que sur ce siège de Saint-Etienne, donc sur 1800 personnes. Casino ne commente pas et ne donne pas de chiffres. Une source proche du dossier assure que l'objectif des repreneurs est de faire en sorte que ça se passe le moins mal possible. Le distributeur, on le sait, est le premier employeur privé local. Les repreneurs se sont engagés à préserver ce siège historique. Bercy suit depuis des mois le dossier de très très près. D'après nos informations, l'une des pistes qui est étudiée pour maintenir au maximum l'emploi à Saint-Étienne est d'y transférer des dossiers qui étaient gérés jusque-là dans les sièges de Monoprix et de Franprix en région parisienne. Plus globalement, Philippe Paladi, il veut renforcer les synergies entre les enseignes et mutualiser certaines fonctions, notamment les fonctions informatiques. Il veut aussi réhumaniser le groupe, assurer une source proche du dossier, réinvestir dans les magasins, réinvestir dans les personnels. Ce cinquantenaire qui a passé plus de 25 ans chez l'allemand Metro, dont Daniel Kretinsky est justement l'actionnaire majoritaire, connaît bien le secteur. Il vient avec l'envie de bien faire et de mieux traiter les gens, nous dit une source. Je ne crois que ce que je vois, nous dit un responsable syndical. Une autre responsable syndicale, fatiguée par plusieurs mois de démantèlement, nous confie que elle a envie d'y croire. Le couperet donc doit tomber d'ici une quinzaine de jours mi-avril. Le plan, les organisations concernées, des chiffres qu'attendent donc ces syndicats qui redoutent qu'en tout 6000 emplois soient menacés, magasins et entrepôts compris, donc à l'échelle de tout le groupe.
Voilà pour l'ensemble des défis de la nouvelle direction qui devra prendre les commandes officiellement ce soir.
D'ici ce soir et demain matin, ils sont à Saint-Étienne.
Et il y a le départ de
rencontrer les salariés.
Le départ de Jean-Charles Nahouri, dont on dira un mot, on entendra un porte-parole de l'intersyndicale qui a des mots très très durs envers Jean-Charles Nahouri, qui va tirer sa révérence dans quelques heures. Merci beaucoup Pauline. Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business. On va rester en France. Alors, grande question, et les chiffres, c'est Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, qui les a donnés ce matin sur BFM Business. Combien de sites industriels ont vu le jour en 2023? Bonsoir Léa Rojo.
Bonsoir.
En net, on a fait mieux finalement qu'en 2022, Léa.
Oui, exactement. Le bilan sur le nombre de nouveaux sites industriels en France affiche un solde net positif. 201 ouvertures et extensions nettes d'usines en 2023 contre 176 en 2022, soit une hausse de 14%. Concernant le nombre de nouvelles usines en France, on comptabilise 57 nouveaux sites sur le sol français en 2023 contre seulement 49 en 2022. Du côté des fermetures ou réductions, 113 usines ont fermé et 40 réductions significatives ont été enregistrées. Parmi les secteurs les plus dynamiques, sur la première marche du podium, on retrouve le secteur de l'agroalimentaire qui comptabilise 47 ouvertures nettes de sites industriels en 2023, suivi des industries vertes et l'économie circulaire, puis le secteur de la santé avec 20 nouveaux sites. Parmi les secteurs les moins actifs maintenant, la filière papier-carton perd un site, le secteur de la plasturgie et les industries extractives restent stables.
Et alors, grande question, quelles sont les régions qui séduisent le plus les entreprises, Léa, aujourd'hui?
Alors, il y a deux régions qui se distinguent, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine, qui concentrent à elles seules 50% des ouvertures nettes comme en 2022. A contrario, la région des Hauts-de-France est une des régions les moins attractives en France, avec un solde négatif de -9 après -6 en 2022.
Voilà pour les chiffres donc que nous a donné Roland Lescure ce matin. Merci beaucoup Léa. Puis du nouveau chez Renault-Nissan. Renault a annoncé ce matin qu'il allait céder l'équivalent de 7% du capital de Nissan. Ça ne devait pas aller aussi vite et ça laisse penser à beaucoup d'experts que Renault, là, a vraiment besoin d'argent frais. Justine Vassogne.
La participation de Renault dans Nissan fond comme neige au soleil. 6 mois après la fin de l'alliance, le constructeur français s'est déjà engagé à vendre 12 des 28% du capital de Nissan, qu'il avait logé dans une fiducie, un trust dans lequel Renault peut aller puiser sans limite dans le temps. Le groupe a ainsi toujours indiqué vouloir attendre le bon moment pour surtout ne pas brader sa participation, car le cours de bourse de Nissan est aujourd'hui deux fois moins élevé que la valeur de ses actions inscrites au bilan de Renault. En vendant 12% de son capital, Renault enregistrera une moins-value comptable qui pourrait aller jusqu'à 2 milliards d'euros. Mais il va aussi récupérer plus d'un milliard et demi d'euros de cash. Ces cessions justifiées aujourd'hui Renault lui permettront d'accélérer son désendettement et d'améliorer sa notation financière. Mais certains observateurs y voient un lien direct avec l'abandon de l'introduction en bourse d'Ampère. Renault espérait en retirer 1 milliard et demi d'euros de cash grâce à de bons résultats financiers. Le constructeur assure avoir les fonds nécessaires pour financer sa nouvelle filiale électrique jusqu'en 2025. Mais la question de l'après va vite se poser.
Justine Vassogne, et puis tiens, on va rester au Japon. Figurez-vous que les Japonais en ont marre du tandem Airbus-Boeing et de la montée en puissance des Chinois de Comac dans une moindre mesure. Du coup, ils viennent de lancer un programme qui devrait leur permettre à terme de produire leur propre avion de ligne. Raphaël Couder nous raconte ça.
Cet avion de nouvelle génération sera développé par tout un écosystème d'entreprises japonaises, avec évidemment un fort soutien de l'État. En tout, plus de 30 milliards d'euros d'investissements publics et privés vont être fléchés pour la réalisation de ce programme. Choix audacieux, l'appareil fonctionnera à l'hydrogène, un domaine qui constitue le pilier de la stratégie de transition énergétique japonaise et dans lequel le pays veut prendre une place de premier plan au niveau mondial. Le Japon espère, grâce à cet avion, bousculer un marché aujourd'hui dominé par Airbus et Boeing et sur lequel le chinois Comac monte en puissance. Il faudra pour cela tirer les leçons de ses précédents échecs. Au milieu des années 2010, le Space Jet de Mitsubishi devait devenir le premier avion civil made in Japan depuis les années 60. Mais les difficultés techniques et les procédures de certification plus complexes que prévues ont fait exploser les coûts. Le programme a finalement été enterré l'année dernière après avoir englouti plus de 8 milliards d'euros.
Voilà, le Japon qui veut à terme en 2035, c'est demain son propre avion de ligne. Raphaël Couder avec nous sur BFM Business. 19h12. On retourne sur les marchés. Je vous redonne la clôture à la bourse de Paris. Le CAC 40 qui a terminé en hausse ce soir, plus 0,25%. 8204 points. Bonsoir, Rodker Sulek. À Wall Street, comment ça se passe pendant ce temps?
Alors, je vous parlais de records en Europe. C'est différent du côté de Wall Street. Il faut dire qu'on sort de 3 séances de baisse. Donc, on avait quand même, on s'était éloigné des plus hauts. On tente de redémarrer aujourd'hui. Mais la tech, notamment, prend un petit peu de recul, hein, moins 0,4%. Et tandis que les autres indices qui étaient dans le vert à la mi-journée, et bien là, redescendent un petit peu, hein, moins 0,08% pour le Dow Jones et même le S&P qui est en baisse. C'est vrai qu'on sent beaucoup d'attentisme sur les marchés avant ce chiffre de vendredi. L'inflation américaine, chiffre que les marchés n'arbitreront pas parce qu'ils seront fermés pour cause de vendredi saint, c'est une tradition sur les bourses. On attendra lundi pour arbitrer ça à Wall Street et mardi en Europe. Donc voilà pourquoi les échanges sont limités aujourd'hui. Quelques valeurs qui se démarquent. Merck, qui a un traitement qui a été approuvé par la FDA, eh bien, monte de 4% et est à plus haut historique, tandis que Nvidia aujourd'hui, il y a des petite prise de bénéfice et on recule de 1,5%.
Merci beaucoup, Rodker Sulek, avec nous sur BFM Business, 19h13. On revient avec Audrey Tcherkov et nos experts dans un instant. Gabriel Attal qui va prendre la parole à 20h, probablement pour faire des annonces sur l'assurance chômage. Moody's qui casse l'ambiance avec une petite phrase assassine. Et puis la nouvelle équipe qui arrive ce soir chez Casino. Beaucoup de défis. Relancer le groupe tout en gérant un énorme plan social. On parle de ça et d'autres choses, bien sûr, jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h16, les experts sont là jusqu'à 20h avec Audrey Tcherkov.
Et ils sont dissipés.
Rebonsoir. Oui, oui, ils sont dissipés, ils ont commencé le débat. Mais ça se passe toujours comme ça. Voilà. Faut voir ce qui se passe pendant les pubs, c'est toujours intéressant. Bruno Coquette avec nous. Bruno, docteur en économie et chercheur associé à l'OFCE. Julien Damon est avec nous. Bonsoir Julien, professeur associé à Sciences Po Paris. Benjamin Coria, bonsoir Benjamin, professeur bonsoir. De sciences économiques. À Paris 13, donc on attend.
Oui.
Tout le monde attend Gabriel Attal tout à l'heure aux 20h de TF1. Rien n'a filtré du séminaire gouvernemental de ce matin, mais a priori, on va nous annoncer ce soir une nouvelle réforme de l'assurance chômage, Audrey. Hein.
Tout à fait. Donc une réforme de plus pour aller chercher les fameux milliards supplémentaires dont nous avons besoin et stopper la dérive des déficits. Sauf que, comme vous pouvez l'imaginer, les syndicats sont déjà à cran. Ce n'est pas le moment, disait ce matin la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Écoutez tout de suite.
Il y a déjà eu 4 réformes violentes qui ont été imposées ces dernières années et aujourd'hui c'est seulement 35% des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi qui sont indemnisées et c'est 40% des personnes indemnisées qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc on voit que aujourd'hui, contrairement à l'image qui est entretenue sur ces chômeurs qui abuseraient, ça n'est pas du tout le cas. Il y a des réformes violentes qui ont été imposées et en plus là le taux de chômage remonte. Donc quand le taux de chômage remonte, il faudrait au contraire augmenter les protections pour les personnes privées d'emploi.
Non. Alors c'est vrai que sur les séquences, le gouvernement s'était engagé justement à assouplir les règles quand le marché se tendait. Et là, en l'occurrence, c'est pas le cas, Bruno.
Ah ben non, le gouvernement, de manière générale sur le budget et sur l'assurance chômage en particulier, fait du procyclique, c'est-à-dire ça allait bien et on dépensait beaucoup d'argent. Là, ça va mal et on dit qu'on dépense moins. Alors après, pour ce qui concerne l'assurance chômage, il faut avoir en tête que 60% des chômeurs sont pas indemnisés. Donc quand vous changez
mais
les règles,
Sophie Binet dit c'est pas un argument ça.
Non mais si c'est un argument. Pourquoi? Parce que quand on change les règles d'assurance chômage, ça change rien pour cela. Donc le point c'est de savoir pourquoi ces chômeurs non indemnisés ne reprennent pas l'emploi avant de se dire ah bah oui mais l'indemnisation est trop généreuse ou tout.
Et
ça.
Alors
et ça empêche
alors
les autres
justement
de
pourquoi? C'est une question de formation.
Pourquoi ? D'abord parce que ils ont sûrement pas suffisamment de propositions d'emploi. Moi, puisqu'il y a des tensions de recrutement. Le problème des tensions de recrutement, c'est qu'elles sont sur certaines qualifications, dans certaines régions, etc. C'est pas forcément en adéquation avec le profil de ces gens. Et est-ce que le travail paye pour eux ? C'est ça la vraie question. Parce que quand on dit voilà, on veut rendre le travail plus attractif que l'inactivité, c'est bien. Mais depuis 2017, en fait, on rend moins attractive l'inactivité. Bon, pourquoi pas ? Mais en tout cas, le travail lui-même n'est pas plus attractif, et on est obligé même de rajouter les compléments de salaire. L'État rajoute la prime d'activité, des chèques X ou Y, etc. Ce qui montre que le travail lui-même n'est pas attractif, qu'on soit indemnisé ou qu'on le soit pas.
Mais Gabriel Attal va parler de ça aussi ce soir. Il va parler d'esmicardisation. Voilà un thème qu'on avait sorti il y a quelques mois. Non, mais il est censé en reparler. C'est ce qu'on nous vend. On va reparler d'esmicardisation.
Il y a deux ans, on smicardisait l'Europe.
Bon, est-ce que c'est là qu'on va aller chercher quelques milliards fondamentalement ? Est-ce que c'est une nouvelle réforme qui vous paraît opportune aujourd'hui ? Julien,
si l'objectif est de trouver des milliards, c'est pas là qu'il y a le plus
non,
gros.
Non, mais politiquement, on sent bien que c'est là qu'on va flatter le plus l'opinion. On n'était pas vraiment
sur. Alors, si vous me posez la question politique, il vaut mieux. Si on veut s'occuper des classes moyennes, en réalité, c'est une question très simple. Pour faire plaisir aux classes moyennes, il faut taper sur ceux qui ne sont pas les classes moyennes. Ceux qui ne sont pas les classes moyennes, ce sont les pauvres et ce sont les riches. Pour le moment, à l'égard des pauvres, disons qu'il y a une certaine qualité de ce que fait le gouvernement pour considérer qu'on doit faire un peu moins pour eux. Il devrait s'occuper aussi des riches et les taxer un petit peu plus, et comme ça les classes moyennes seraient contentes.
Alors pour le
ça,
moment, c'est mais politique. C'est pas à l'ordre du jour.
Ça, c'est politique. Maintenant, sur le plan de la quête de milliards d'euros de budget que l'on pourrait tenter de trouver afin de faire des économies, c'est pas sur le budget de l'assurance
alors,
chômage qu'on en trouvera le maximum.
Pour
c'est
cette
sur
année.
Les retraités.
Voilà. Oui, oui, absolument. Alors ça, c'est clair. On va en parler aussi. Mais sur ce sujet de l'assurance chômage, il y a quand même 3 milliards qui sont censés être économisés. Quand on en cherche 10, c'est quand même pas mal, Benjamin Coria.
Oui, mais je pense que la question a bien été posée. Est-ce que c'est de l'économie qu'on veut faire, hein ? Et donc, est-ce que... Mais de l'économie dans tous les sens, hein ? C'est-à-dire à la fois de l'incitation et à la fois des gains,
hein, ouais, des financiers,
des bénéfices, ouais, du budget, ou est-ce que c'est de la politique?
Moi, probablement je pense les deux.
Là, c'est quasiment presque 100% de la politique, parce que je veux dire, ce qui a gagné sur l'assurance chômage aujourd'hui en termes économiques proprement dit, c'est dérisoire, y compris par rapport à ce qu'il y a à perdre. Ça veut dire que le minimum de j'ai presque envie de dire demande solvable qu'on arrive à maintenir chez les plus exclus et les plus pauvres, on va l'enlever. Donc je veux dire, il faut quand on s'attaque à des revenus extrêmement bas de ce type, il faut pas raisonner seulement en termes d'économie. Il faut aussi raisonner en termes un peu keynésien, c'est-à-dire qu'est-ce qui sous-tend une consommation minimum. On va parler tout à l'heure de la déconsommation,
oui,
je crois. Mais pour moi, c'est à peu près le même sujet. Hein. On va.
Bah c'est une question de pouvoir d'achat.
Pour partie.
C'est clair.
Mais voilà. Bon, mais si vous voulez la ce qui est très choquant quand même, hein, parce que moi je suis en plus probablement là pour dire ça. Donc, je vais le dire. C'est deux choses. La première, c'est que la négociation entre les partenaires sociaux, elle avait été lancée. Elle est, semble-t-il, très avancée. Ils demandaient une nouvelle date, le 8 avril, et on n'en a absolument rien à faire.
Elle n'avance pas, Benjamin. Elle n'avance pas. Elle n'avance pas, cette négociation. Elle n'avance pas.
Non, moi, je suis pas sûr qu'elle avance pas.
Sur l'assurance chômage ou sur l'emploi des seniors, ça n'avance pas.
Non, moi, je suis pas sûr qu'elle avance pas. Je pense qu'elle avance dans une direction qui convient pas.
Voilà, au syndicat.
Au gouvernement.
Enfin, on a entendu.
Ça c'est le premier problème. Bon, puis après je m'arrête. Le deuxième problème, c'est que ça a été dit, hein, la grande justification de la réforme, outre les justifications de détail, c'est le caractère anticyclique, oui, des mesures prises. On est en pleine augmentation du chômage. Donc on devrait faire l'inverse. Ça veut dire que vraiment, je veux dire, il y a aucune parole politique, il y a rien.
Oui, sauf que oui et non, puisque justement on a cette course du chômage qui s'inverse et Gabriel Attal met en cause le modèle social.
Ah oui.
Ah oui, non mais attendez, c'était pas ça l'argument. L'argument initial, c'était on attaque l'assurance les assurances, hein, parce que ça va mieux et quand ça ira plus
je
mal.
Suis d'accord
on
avec vous, je suis
non,
d'accord mais, avec vous, mais ce qu'on comprend c'est que l'obsession actuelle du
non,
gouvernement,
ça,
c'est de faire en sorte
néolibérale,
de faire en sorte que le travail rémunère plus que l'assistanat.
Ça sera encore le mantra ce soir, il faut que le travail paye.
Non mais le travail ne paiera pas plus ce soir.
Mais bien sûr,
ce soir peut-être pas, mais sais pas.
Enfin, demain matin. D'après ce dont on discute, le travail ne paiera pas plus.
Bien sûr.
En revanche, ce qu'on a compris, c'est que avant les prélèvements de 12 milliards annoncés d'ici 2026 sur l'UNEDIC, l'UNEDIC dégageait 24 milliards d'excédents. On prend 12 milliards. C'est une taxe sur les super-profits de 50%. Hein, donc, ni plus ni moins, ça, c'est une taxe sur les chômeurs.
Oui, on avec des comme arguments. Ça,
ouais. C'est une taxe sur les super-profits de l'UNEDIC, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Non, c'est une taxe sur les chômeurs, sur les cotisations sociales.
Il n'y a aucun élément technique aujourd'hui pour dire que les droits à indemnisation posent problème du point de vue de la reprise d'emploi. Aucun élément technique. Il y a eu un rapport de la DARES il y a un peu moins d'un mois qui, en fait, nous répète à quoi servaient les réformes précédentes, mais qui ne donne aucune évaluation. Et au bout du compte, est-ce que les gens sont trop indolents lorsqu'ils sont indemnisés à reprendre un emploi? La réponse est pour le moment non.
Non, mais c'est aussi, Bruno, et vous le savez très bien, une question d'uniformisation par rapport à nos voisins européens, puisque en termes de durée d'indemnisation, on se retrouve quand même toujours
c'est deux fois
sur le podium des pays les plus généreux.
C'est l'assurance chômage. L'Allemagne est entre 12 et 14 mois, c'est vrai.
Non, mais sauf que l'assurance chômage française, c'est la plus chère du monde. Donc il y a les droits et puis il y a les contributions.
Oui.
On est deux fois plus cher qu'en Allemagne.
Donc, oui.
Sur une vie entière de travail, si vous n'êtes jamais au chômage, 42 ans, et vous payez l'équivalent de 35 mois de salaire de cotisation, ce qui est l'équivalent de 50 mois d'allocation. Donc c'est colossal. Pourquoi les gens acceptent de payer aussi cher depuis aussi longtemps?
Benjamin,
c'est parce que le chômage est très coûteux en France. Si vous passez par le chômage, vous perdez vos compétences et vous ne retrouvez jamais la carrière que vous aviez avant. Et donc les gens veulent s'assurer contre ça.
Benjamin Coria.
Je rajoute juste un point, puisque si vous faites des comparaisons, il faut les faire jusqu'au bout.
Allez-y.
Comment dire? Alors c'est vrai que notre assurance est plus généreuse que l'Allemagne, ça c'est incontestable. Mais les taux d'activité et nos taux d'activité, en particulier chez les seniors, enfin chez les plus de 50 ans, qu'on veut attaquer, sont parmi les plus faibles d'Europe. Donc, si vous voulez, le problème est pris à l'envers, à l'extrême limite. Moi, je comprendrais que...
Mais à ce moment-là, parlons de la productivité aussi.
Mais on peut parler de la productivité, mais si vous voulez, ça, c'est un phénomène absolument général. Mais sur les comptes qui concernent l'assurance sociale, les questions de cotisation, de durée et de taux d'activité, ça c'est vraiment la triade à laquelle on ne peut pas échapper.
Vous avez vu que parmi les...
Je veux dire, si on commençait par augmenter les taux d'activité et qu'ensuite on diminue le temps de compensation, si je peux dire, on pourrait discuter, mais ce n'est pas le cas.
Vous avez vu que parmi les pistes, on verra ce que dira Gabriel Attal, il y a possibilité d'indexer, enfin de ramener la durée d'indemnisation des seniors sur celle des actifs. Effectivement, ça fait partie des pistes qui sont envisagées.
Oui, c'est ça, avec un taux d'activité.
C'est le risque à couvrir. Une assurance chômage, c'est trop, c'est pas bien, pas assez, c'est pas bien non plus.
Un mot quand même, 3-4 minutes avant la pause, un mot quand même de Moody's qui a un peu glacé l'ambiance. Vous avez vu ça, vous avez vu cette petite phrase à la mi-journée. Nous pensons improbable que la France ramène ses déficits à 2,7% du PIB.
Mais c'est ce que les experts du soir vous disent tous les soirs.
D'ici 2016.
Oui.
Donc Moody's nous a écoutés. Ouais, c'est ça, elle a bien fait. Bon, est-ce que c'est signe avant-coureur d'une dégradation dans les prochaines semaines, ça, pour vous?
Parce que Moody's parle. Assez probablement, mais si on revient à notre discussion précédente, ça voudrait dire diviser en proportion le déficit par deux. On passerait d'un peu plus de 5% à moins de 3%. C'est vraiment pas en piochant.
Ce qu'on n'a jamais fait.
Non. Et puis c'est vraiment pas en picorant ici ou là 1 ou 2 milliards dans cette institution, aussi noble soit-elle, qu'est l'assurance chômage. Ce sont des décisions bien plus radicales. Est-ce qu'il faut s'y préparer? Est-ce qu'il faut les redouter? Chacun ses goûts politiques, mais ça n'a strictement rien à voir avec les petits bidouillages dont
on vient de parler. Ceci dit, Julien, quand même, cette réforme de l'assurance chômage, c'est un signal positif envoyé précisément aux agences de notation.
Ouais, je ne pense pas. C'est un signal positif envoyé en direction de l'opinion d'un point de vue politique. Et c'est vrai que c'est très présent, puisque c'était très présent même dans le discours de politique générale du Premier ministre, qui veut fusionner l'ASS avec le RSA. Oui. Phrase totalement bureaucratique, mais qu'on ne trouverait pas dans un discours de politique générale.
C'est quand même assez le taquet quand vous savez qu'ils annoncent ça sans avoir entendu ne serait-ce que ce que dirait Gabriel Attal ce soir, et au lendemain de la réactualisation des prévisions de l'ICF. Enfin, ça veut tout dire quand même.
Bah oui, mais c'était justement pour les commentaires.
Non, mais toute personne qui dit aujourd'hui qu'on va atteindre 2,7 en 2025,
personne n'y croit.
Donc,
Bruno Le Maire a encore répété la main sur le cœur hier à l'Assemblée. C'est notre objectif. On s'y tient.
Oui, il a même dit aussi qu'il n'y avait pas eu assez d'inflation. C'est pour ça que les dépenses publiques étaient trop basses. Il attendait lui une inflation plus forte. Le point, c'est que la réforme de l'assurance chômage n'est pas une réforme. Une coupe dans les droits n'est pas. On pourrait supprimer l'assurance chômage sans supprimer la cotisation. On gagnerait 40 milliards par an. Et donc le point, c'est pourquoi on le fait pas. Voilà, ouais. Parce que politiquement, on voit bien que c'est compliqué de le faire en une fois. Mais fondamentalement, c'est la logique qui est employée. C'est on coupe là où il y a de l'argent aujourd'hui, donc c'est pas dans les retraites, c'est dans l'assurance chômage.
Et, mais c'est pas là qu'il y a de l'argent. C'est dérisoire.
Non, dans les retraites. Non,
c'est, alors, Benjamin Coiré aimerait bien qu'il faut augmenter les impôts.
Si on veut mélanger chiffres et politique, il y a aussi des choses qu'il faut dire. La taxe sur les super profits qui a été appliquée un peu partout, qu'en France, on a réduite à une taxe. Absolument ridicule sur l'électricité qui devait rapporter 3,7 milliards, elle a rapporté 300 millions. Ça s'est passé complètement sous les radars. Personne n'en parle. Et on trouve plus juste d'attaquer les chômeurs que d'essayer de récupérer ces 3,4 milliards qui alors sont du bel argent trébuchant qui aurait dû arriver. Donc si vous voulez... Comment vous voulez qu'on prenne au sérieux tout ça ?
Julien Damon n'est pas d'accord, apparemment.
Non, je suis d'accord avec d'abord le Conseil général, qui est que si on doit faire des efforts substantiels, c'est pas en picorant ici ou là. Ceci dit, m'est venu à l'esprit le fait qu'aujourd'hui, nous parlons du chômage, mais la semaine dernière, il y a eu un autre sujet sur la table, c'est étonnant d'ailleurs, un coup d'essai, c'est les prestations logement. Si on met fin au versement des prestations logement et qu'on conserve les cotisations qui les financent encore, on gagne 16 milliards d'euros. Ouais, c'est quand même pas mal. Alors Bruno Le Maire l'a annoncé comme un coup d'essai.
Il y a des mollos sur les aides de logement.
Oui, mais alors Bruno Le Maire l'a annoncé comme étant quelque chose qu'il ne mettait pas totalement de côté. Alors le reste du gouvernement et le ministre du Logement ont dit non, on ne le fera pas. Il y a comme ça plein de coups d'essai.
Rappelez-vous la baisse de 5 euros sur les appels
à l'Assemblée, le groupe
LFI.
Non, mais donc en gros, sur le déficit, on est tous d'accord pour dire que l'objectif 2027 de le ramener en dessous de la barre des 3%, personne n'y croit. Mais quid de l'objectif pour cette année de ramener le déficit à 4,4%, ça voudrait dire le réduire d'un point exactement en termes de pourcentage, ça serait du jamais vu.
Oui, mais c'est du jamais vu. Et si on picore 2-3 milliards d'euros sur l'assurance chômage, que ce soit souhaitable ou non, ça ne fait qu'un dixième de l'effort qu'il faudrait faire.
Et en plus, c'est pour ça qu'on est si on réduit la durée des droits, c'est des économies en 2025, pas en 2024,
voilà,
parce que c'est au bout des droits.
Oui.
Bon, enfin, on va picorer. Enfin, on ne sait pas si on va picorer. On va écouter en tout cas Gabriel Attal ce soir à la télévision, 19h30 sur BFM Business, je vous redonne les grands titres dont Gabriel Attal tout à l'heure aux 20h de TF1 avec de probables annonces sur l'assurance chômage, puisque rien à filtrer en tout cas du séminaire gouvernemental de ce matin à Matignon. Je vous rappelle les pistes qui sont sur la table. Il y a notamment une nouvelle baisse de la durée d'indemnisation pour les seniors ou pour tous, ou encore un durcissement des conditions d'éligibilité. On verra ça bien sûr tout à l'heure. Ironie l'histoire, c'est donc le jour où le gouvernement essaie de rassurer tout le monde que Moody's lance un taquet au gouvernement sur les finances publiques. Il est improbable, a dit l'agence, que Paris arrive à ramener ses déficits à 2,7% du PIB d'ici 2027. Moody's qui statuera sur la note de la France le mois prochain. Grosse journée chez Casino, on va en parler dans un instant puisque la nouvelle équipe dirigeante doit prendre ses fonctions aujourd'hui avec un nouveau directeur général qui s'appelle Philippe Palazzi. Nouvelle direction qui va devoir gérer un gros plan social qui va faire passer les effectifs de Casino en France de 50 000 à quelques 28 000 salariés. Et puis Renault qui continue de se désengager de Nissan. Ça ne devait pas aller forcément aussi vite. En tout cas, Renault a cédé 7% du capital du japonais ce matin. 19h31, on revient bien sûr dans un instant.
A tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h34, vous êtes sur BFM Business. Les experts du soir vous parlent de Casino. Donc ça y est, le nouveau board est arrivé. Nous sommes avec Julien Damon, Benjamin Coria et Bruno Coquet. Donc, la nouvelle équipe dirigeante est arrivée aujourd'hui mercredi, mise en place par Daniel Kretinsky avec un nouveau directeur général qui s'appelle Philippe Palazzi-Guillaume.
Il va avoir du pain sur la planche, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va falloir à la fois redresser un groupe comme Casino et puis gérer un plan social qui va faire passer, je disais, les effectifs. C'est 50 000 aujourd'hui, ça sera 28 000. Dans un secteur de la grande distribution, on le répète soir après soir, hautement concurrentiel. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, les nouveaux dirigeants?
Je pense que il y a motif d'être très inquiet. Bon, sur le plan strictement, on va dire, industriel, etc., il y a des pépites à l'intérieur du groupe.
C'est clair, en termes de marque.
Donc, je veux dire, monoprix, en s'appuyant sur ça, si la politique menée est intelligente, bon, ils doivent pouvoir s'en sortir. Bon, mais toute la phase de transition pour arriver là, et en particulier le plan social, y compris dans la maison mère à Saint-Étienne, ça risque d'être d'un compliqué, extrêmement douloureux. Parce que moi, j'entends dire, y compris sur votre antenne, que le plan, c'est il y a beaucoup de couloirs séparés, etc. Donc, on va mutualiser. Je comprends, je comprends. Mais c'est pas ça qui va permettre de diminuer les emplois. Ça va les faire tomber en masse, parce que plus on va mutualiser, plus on va séparer les couloirs, ce qui est sans doute nécessaire, sur un plan industriel. Moi, je mets pas ça en question.
Non, mais c'est bien pour ça que d'ailleurs, concernant le siège à Saint-Étienne, les emplois vont être divisés par 3. Ça a été
annoncé. Ah ben oui. Donc moi, je pense que on va vers une période qui va être extrêmement difficile pour les salariés. Probablement sur le plan industriel, il va ressortir quelque chose du groupe parce qu'il a des vraies pépites. Voilà, la question c'est jusqu'où accepteront-ils ils vont mettre la barre de qu'est-ce qu'ils gardent et qu'est-ce qu'ils gardent pas, sachant qu'il y a des choses qui s'imposent à garder, des choses qui s'imposent à liquider.
Et avec une course contre la montre.
Franprix et Monoprix, effectivement, sont évidemment les.
On peut pas être très optimiste quand même.
Bruno, comment est-ce que vous regardez ça, vous ? Je disais, alors, les effectifs vont passer de 50 000 à 28 000. 28 000, c'est le chiffrage actuel. On ne sait pas ce que sera le vrai chiffre à l'arrivée, finalement. C'est
ça. Alors, le président du GCA est un ancien DRH. Donc, du coup, je ne pense pas que ce soit un hasard. Première remarque.
Laurent Pietraszewski, qui venait souvent nous voir ici sur ce plateau. Qui
était on a ce signal. Après ça, moi, je suis surpris du chiffre. C'est-à-dire.
Pourquoi ?
Parce que ça veut dire qu'on ferme des boutiques. Parce que fondamentalement,
ils en ont cédé beaucoup.
Non, d'accord, ils en ont cédé beaucoup, mais celles qu'ils ont cédées, on suppose quand même qu'ils ont cédé les gens avec. Ils n'ont pas gardé les salariés.
Alors pas forcément, parce que le siège à Saint-Étienne était composé justement des fonctions support qui n'ont évidemment.
Non, mais le siège à Saint-Étienne, c'est marginal dans ces 20 000. C'est relativement marginal. Le point, c'est que si vous cédez un magasin vide, il va bien falloir embaucher des gens. Alors on comprend que sur les contrats de travail de Casino étaient plutôt avantageux par rapport à la moyenne du secteur, donc il va y avoir des renégociations. Mais fondamentalement, si ces magasins restent ouverts sous une autre enseigne, le mieux, c'est quand même de reprendre les salariés qui sont là. Donc certes, ils vont disparaître de Casino, mais on peut espérer qu'ils seront repris ailleurs.
Très vite, je voudrais vous faire écouter, parce qu'on parlait de l'arrivée d'une nouvelle équipe de direction ce soir. Jean-Charles Naouri, lui, va s'en aller.
C'est une page qui se tourne.
C'est une page qui se tourne. Écoutez, vous savez qu'il a envoyé une lettre hier à l'ensemble des salariés. Une lettre très poignante sur le papier. Oui, mais écoutez, ce matin, le porte-parole de l'intersyndicale Didier Marion, qui était quand même très très cash sur la perception qu'avaient les salariés de Jean-Charles Naouri. Écoutez.
On l'a reçu comme tous les salariés l'ont reçu, un peu comme un affront et un dégoût, un déni. C'est-à-dire que Monsieur Naouri n'a pas reconnu ses erreurs. Il dit qu'il a pris des décisions, sauf que les décisions qu'il a prises étaient à l'inverse de l'actualité. On peut revenir sur la période Naouri. Naouri est arrivé chez Casino en 97, à une période difficile où il y avait une OPA sur Casino. À l'époque, c'était un groupe de distribution qui a été absorbé par Carrefour, qui avait fait une OPA. Et Monsieur Naouri, à travers la filiale Rally, avait fait une contre-OPA. Il y a eu une première partie, quelques années, où Antoine Guichard était encore présent. Ça s'est très bien passé. Et puis ensuite, avec la disparition d'Antoine Guichard, Jean-Charles Naouri a assuré à la fois les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. Manifestement, il n'était pas à la hauteur de la direction d'un groupe de grande distribution. C'était un financier, mais pas un distributeur.
Oui, mais je pense que la déception, elle vient du fait, en effet, qu'ils n'ont pas senti, dans cette dernière lettre de remise en question, qu'ils se sont sentis aussi, par ailleurs, abandonnés, parce que Jean-Charles Naouri, on en parlait tout à l'heure avec Pauline Tadevin, ne participait pas, enfin plus en tout cas, ces derniers mois, aux réunions, notamment avec les syndicats. Mais c'est quand même terrible, parce que Jean-Charles Naouri, ça a été un grand capitaine d'industrie, il a participé à l'essor de l'économie française, il a quand même participé aussi à la modernisation des marchés financiers dans les années 80, aux côtés de Bérégovoy. C'est la déchéance totale. Bruno Coquet.
Oui, c'est la fin de l'histoire. Alors le point, c'est que c'est pas que la fin de l'histoire de Jean-Charles Naouri, c'est la fin de l'histoire de Casino, qui est un très vieux groupe à Saint-Étienne. Et donc du coup, voilà, c'est une une histoire française.
On ne peut pas dire que c'est la fin de Casino. C'est le début d'une nouvelle histoire pour Casino.
Oui, enfin, c'était une entreprise qui était en essor, qui a atteint plusieurs centaines de milliers de salariés, qui était dans plein de pays dans le monde, dans un secteur qui est plutôt porteur, ce secteur-là.
Benjamin Trévis,
qui à un moment donné a dû faire des erreurs, j'imagine. Pour perdre des parts de marché des clients dans cet univers-là.
Benjamin Correa.
Dans l'échec de Casino, il y a certainement des choix industriels, de marketing, etc., d'implantation, qui n'ont pas été toujours les meilleurs. Il n'y a aucun doute là-dessus, bien sûr, sinon ils n'en seraient pas là. Mais il y a aussi quand même un modèle de construction d'un groupe des holdings et par endettement systématique qui exigeait que les différentes entités placées sous la holding puissent cracher suffisamment de dividendes pour payer la dette. Donc tant qu'on gagnait de l'argent, ça allait. Dès qu'on en gagne moins, tout s'effondre. Donc c'est aussi ce modèle-là, et qui ne concerne pas, je ne cite personne, qui ne concerne pas que Casino.
Bien, Julien Damon.
Oui, il y a le modèle actuel sur lequel je n'ai strictement rien à dire parce que je ne suis pas un connaisseur de Casino. En revanche, sur le passé, je connaissais un tout petit peu l'histoire de la maison. Bruno l'a évoqué. C'était une entreprise fondamentale. Et c'est pour Saint-Étienne quelque chose de terrible
que de voir disparaître. C'est le premier employeur de la région,
De voir disparaître un grand nom. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Casino et qui aiment le football, il faut avoir à l'esprit que le célèbre stade Geoffroy Guichard est nommé par le fondateur de cette belle entreprise qui a également été innovante en termes de logements sociaux, d'allocations familiales, etc., avant de verser dans une autre époque du capitalisme.
C'est vrai, alors on peut aussi dire que Casino a été victime du phénomène de déconsommation, en tout cas c'est la question qu'on peut se poser, la France est-elle passée justement en mode déconsommation? En tout cas c'est ce que disait ce matin le patron de Système U sur BFM TV, depuis la rentrée il observe ce phénomène, écoutez.
Je vous le dis, on est en déconsommation en France aujourd'hui. On est en déconsommation. L'impact de l'inflation au départ, on en avait parlé ici, c'était d'abord de l'arbitrage. Moins de non-alimentaires, moins de produits frais traditionnels, moins de grandes marques au profit des marques distributeurs. On continue là-dedans. Moi, je n'observe pas de grandes tendances d'inversement. Et je vais même plus loin, depuis la rentrée, on observe de la déconsommation, ça veut dire de la baisse de volume. On était à moins 4,5% de volume au mois de janvier, moins 1,2 en février, les gens achètent moins.
Il y a un truc terrible aussi dans ce que dit Dominique Schelcher, il dit que de manière très cash, à plus de 3 euros, les gens n'achètent plus. Voilà, c'est quelque chose qu'il observe.
Oui, voilà, c'est ça. Mais, fortement. Oui, mais alors justement, si on rebondit sur cette phrase, est-ce que ça veut dire que la France est en déconsommation ou simplement que les consommateurs s'adaptent à leur pouvoir d'achat?
Je raisonne en économiste basique. Les prix augmentent, la consommation baisse. Ça va avec.
Alors, les prix ne baissent pas, c'est ça, Bruno. L'inflation se tasse, mais les prix ne baissent
alors,
pas.
Non,
mais
bien sûr. Certains prix continuent de monter.
Certains prix continuent de monter.
Mais le point, c'est que ça a beaucoup augmenté. Donc, il est normal qu'on bout d'un moment, comme certes, les salaires ont augmenté avec un petit peu de retard, mais quand même, il y a beaucoup de gens, et notamment ceux qui se fournissent dans les hyper et les supermarchés en périphérie des villes de province, ils ont des problèmes de pouvoir d'achat. C'est pas une nouveauté que de le dire. Et à un moment donné, je pense qu'ils privilégient peut-être aussi des achats dans d'autres endroits que ceux-là qui, quoi qu'on en dise, ont fait augmenter les prix beaucoup. La grande distribution, ils ont un marketing moi que j'admire beaucoup, mais en même temps, ils ont fait des marges énormes l'année dernière. Il y a un moment donné, ça se ressent chez les consommateurs.
Mais enfin, on peut aussi parler des multinationales. Ont-elles joué le jeu quand on voit que le cours de la tonne de cacao a triplé depuis janvier 2023 il y en a aussi qui s'en sont mis plein les poches, Benjamin Correa.
Non, le problème de la déconsommation, moi je pense que c'est un problème sérieux à beaucoup d'égards. C'est un mot valise, ça recouvre des tas de choses, y compris des changements dans les comportements de consommation.
Alors justement, est-ce que c'est quelque chose de conjoncturel ou de structurel?
Ah non, moi je pense que c'est structurel. Je veux dire, moi je suis un vieux défenseur de la transition écologique, etc. Je ne me raconte pas d'histoire, mais j'observe que quand même, dans la déconsommation, il entre une petite partie qui a à voir avec un souci de consommer autrement, voire éventuellement de consommer moins. C'est une partie de la déconsommation. C'est pas le cœur de la question. Le cœur de la question, c'est bien celui qui a été mentionné, à savoir que les gens achètent moins, y compris en volume, bien entendu.
80% des foyers les plus modestes ont changé leurs habitudes alimentaires, c'est énorme.
Et c'est vrai que c'est pas séparable, à mon sens, je suis parfaitement d'accord avec ça, bien entendu, avec le fait qu'on a connu une inflation très forte. Vous parliez du cacao.
Oui.
Il y a les producteurs de matières premières, bien sûr, qui, dans un certain nombre de cas, ont bénéficié de cette rupture des chaînes de valeur, etc. Mais il y a surtout les professionnels de l'agroalimentaire. C'est eux qui ont tiré l'inflation d'une certaine manière.
Et c'est pour ça qu'il faut une meilleure transparence sur les structures de coûts.
Il y a une partie des consommateurs qui ne suivent plus.
Enfin, ils suivent moins, ils se reportent vers les marques distributeurs. C'est la grande victoire des marques distributeurs dans cette histoire.
Et Julien, plus de transparence.
Pourquoi pas du côté d'un des versants de la déconsommation, parce que la déconsommation a peut-être 1000 sens, mais elle en a deux principaux. Il y a une déconsommation qui est subie, c'est ce que le président de Système U nous décrit, et il y a une déconsommation qui est choisie. Alors ça ne porte pas exactement sur les mêmes catégories de la population, ni sur les mêmes produits, mais vous avez tout un mouvement qu'on trouve quand même à tous les gradients sociaux de personnes qui souhaitent moins consommer. Alors vous allez me dire, oui, mais là on parle de l'alimentation, on parle de l'essentiel, etc. Il y a ça parce qu'il y a de la déconsommation subie. Mais vous avez parallèlement un choix de consommation plus frugale, plus sobre, se déploie. Et tous ceux qui vendent des produits qui auparavant faisaient de la marge sur du volume sont face à des gens qui achètent moins. Alors, il y a le problème de l'alimentation, mais après, si on parle des chaussettes, des chapeaux, etc., ben, vous avez plein de sujets.
Oui, c'est la consommation générale. Mais 76% des Français modestes déclarent manger moins de viande, voire plus du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on est en train de comprendre, c'est que tous ces petits renoncements du quotidien compensés un peu temporaires deviennent finalement durables.
Alors, déjà, dans le cadre général, au total, la consommation en France ne baisse pas. Dans les comptes nationaux, on n'a pas de baisse de la consommation. Donc, ça veut dire, effectivement, qu'il y a des arbitrages.
Oui.
Et ces arbitrages sont effectivement différents selon les niveaux de revenus. Et donc, renoncer typiquement à la viande, qui est un bien cher, quand on a des problèmes de pouvoir d'achat, je pense que c'est une substitution.
C'est un peu l'autre défaite de Bruno Le Maire qui nous prédisait, qui promettait au début de l'année des baisses de prix pour cette année en rayon. Bon, bah, pour l'instant, on n'en voit pas la couleur.
Alors, il s'est engagé très vite.
Non,
trop
mais
vite.
Bon, c'est vrai que pour embrayer sur ce qui a été dit, cette affaire de déconsommation, quand on la regarde d'un point de vue macroéconomique, bon, ça apparaît pas. Et puis, ce qui apparaît pas et qui devrait apparaître, c'est les transferts de l'affectation du revenu aux catégories de produits. Alors, c'est vrai, par exemple, sur l'alimentation, etc., il y a des gens qui suivent plus, hein, le prix de la viande, etc. Bon, mais moi, je réfléchissais à ça, par exemple, récemment. Ce qu'est devenu notre consommation d'électronique entre les ça,
oui, c'est vrai.
Les abonnements aux chaînes payantes, etc.
Ça prend le pas.
C'est astronomique, mais astronomique.
Oui, donc
le
divertissement
par rapport à ce qu'était la consommation dans les années 70-80. Bon, donc il y a des déplacements violents.
C'est la société du divertissement, Julien. Ça.
Mais un tout dernier petit mot, c'est que cette déconsommation subie est parfois même applaudie. On parle de la viande. Vous avez une partie des écologistes qui peuvent dire « Ah bah chouette, alors !» Même s'ils déplorent les contraintes qui pèsent sur les gens.
Bien, voilà pour la petite phrase « déconsommation », le mot est fort, hein, prononcé ce matin par le patron de Système U. On va avoir 4 minutes pour vous demander si vous avez été emballé par les chiffres qu'a sorti Roland Lescure ce matin, le ministre de l'Industrie, qui nous dit « Bah voilà, en 2023, alors solde net en France, 57 usines supplémentaires sur le sol français. C'était 49 seulement l'année précédente. Est-ce que vous dites qu'il y a un effet waouh ? Ou est-ce que vous dites « C'est pas fameux ?» Il va falloir encore attendre un certain temps pour que la réindustrialisation porte ses fruits.
Bah, chiffre en tout cas qui cache une réalité contrastée et une économie à deux vitesses en fonction des secteurs et des territoires. Benjamin Corrien.
Non, moi, ce n'est pas du tout un effet waouh. Je ne suis pas du tout en train de nier qu'il n'y a pas une tentative de pousser à la réindustrialisation et qu'elle ne produit pas des effets.
Mais c'est du long terme.
La réponse est oui. Bon, mais ceci dit, il y a plusieurs choses qui me gênent. La première chose qui me gêne, c'est que c'est les chiffres de Bercy et que tout d'un coup, on a changé de thermomètre. Bon.
Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs tout est son contraire.
Non, mais il faut le dire hein, quand même. Ouais. Bon.
La deuxième chose. Vous n'accordez pas le bénéfice du doute, peut-être. Hein, vous peut-être ne leur accordez pas trop le bénéfice du doute.
D'accord, mais enfin, pour le moment, on constate le changement de thermomètre. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne conteste pas qu'il y ait eu ces augmentations. Il faudrait les mettre il faudrait les donner en termes de création d'emplois nets ouais. par rapport aux emplois perdus. Alors là, le chiffre n'est plus
ah
du tout
bah
le
même. La marche est haute, oui.
C'est cependant, ça. Je répète, je ne nie pas du tout hein, qu'il y ait un petit frémissement. Voilà. Comment le consolider, c'est toute la question.
Vous achetez le frémissement, Julien Damon ou...
Oui, je suis content lorsque l'on affiche plutôt des bonnes nouvelles.
Le frémissement, si... ça laisse un peu sur sa fin, vous voyez, quand on dit...
Bon, mais là, on voilà. commence par frémir et après on s'aime. Donc ça débute. Ceci dit, il y a les bisbilles statistiques, il faut les avoir à l'esprit. Il y a un sujet plus général, c'est que penser de la réindustrialisation. Parce que maintenant, ce serait l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut faire. Quand il y a une vingtaine d'années, tout le monde rigolait quand on parlait d'industrie. Ce qui est important, je pense, c'est la géographie de la réindustrialisation ou la géographie de l'industrie. Il y a des territoires qui ont été dévastés par la désindustrialisation. Oui. S'ils peuvent bénéficier d'une reprise d'activité industrielle, c'est très bien. Et il semble, en l'espèce, avec ces chiffres de Bercy, que ce ne soit pas exactement le cas, au sens où la part nord-est du pays ne bénéficie pas trop de ces nouvelles implantations. Mais au total, je ne peux qu'applaudir quand il y a des bonnes nouvelles.
Oui, mais alors, enfin, en termes d'image, puisque c'est de ça dont vous parlez, on se rend compte aujourd'hui que la réindustrialisation, c'est à la fois un vecteur de décarbonation et puis aussi de souveraineté. Enfin, ça, on s'en est quand même rendu compte pendant la pandémie.
Oui, il y a des sujets de géopolitique et il y a des sujets de transition numérique, de transition écologique. Et le défi pour l'industrie, c'est d'une part de se décarboner elle-même et d'autre part, c'est d'industrialiser la transition écologique avec des produits qui seraient des produits industriels. Je veux dire, c'est une photovoltaïque, par exemple, qui permettent à la France de rayonner.
Bruno Coquet, ces chiffres de Bercy ne doivent pas cacher le fait qu'on continue à perdre des parts de marché par rapport aux autres pays européens.
Ben oui, le point c'est si on regarde toujours la base, donc la comptabilité nationale, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que la part de l'industrie dans la valeur ajoutée continue de baisser. Bon. Quand je dis continue, c'est depuis des années. Et la part de l'emploi industriel, même s'il a augmenté, c'est vrai, ces dernières années, dans l'emploi total, elle baisse aussi.
C'est quoi, 10-11% je crois, en France, dans ces zones-là.
Oui, on doit être autour de ça, autour de 11%. Enfin, ça baisse régulièrement. Et donc, du coup...
2,8 millions. J'ai lu un bouquin tout à l'heure là-dessus.
Et donc, du coup, donc ça a augmenté. Mais comme ça s'est beaucoup développé dans les services, en même temps, la part de l'industrie dans le total baisse. Donc, du coup, la réindustrialisation, elle se voit pas encore dans les chiffres de l'activité. Ça, c'est la première chose.
La balance commerciale des produits manufacturés, c'est quand même dramatique.
C'est pour ça que Bruno Le Maire propose la TVA sociale. Et donc, du coup, ce mouvement de réindustrialisation, très bien, ne serait-ce que parce qu'on a un sujet d'aménagement du territoire et que on a des problèmes de compétitivité. Donc, il faut bien qu'à un moment donné, il y ait des gens qui investissent. Mais comparer des usines qui ouvrent à des usines qui ferme juste comme ça, sans regarder les mètres carrés, en excluant la logistique, parce qu'on est dans le nouvel indicateur. On a exclu la logistique, ce qui est vraiment une question. Ouais. voilà, enfin c'est pas terrible.
20 secondes, Benjamin.
Pour être très très bref, moi j'ai surtout regardé les chiffres qui concernent l'attractivité, parce que c'est un peu la même chose, hein. C'est la capacité d'attirer des investissements.
Ah oui.
Voilà. En fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup des activités à très haute valeur ajoutée dans R&D. Voilà.
Bien, vous l'avez entendu, le fameux sifflet de l'Extra Time.
Bah oui, et voilà, c'est l'heure.
Il est venu d'en haut, comme on dit dans ce genre de situation. 3 minutes encore, l'heure de l'Extra Time. Vos humeurs du soir, coup de gueule, coup de cœur sur une trentaine de secondes. Qui se dévoue ? Allez, Bruno Coquet, c'est parti, Bruno.
Dévoué. Ah bah moi, un petit coup de cœur. Alors, Richard Serra, qui est un sculpteur mondialement connu, a disparu aujourd'hui. Richard Serra, il a fait des grandes sculptures monumentales en acier, qui étaient faites dans les aciéries du nord de l'Espagne. On en a eu une aux Tuileries à Paris dans les années 2000, qui est ces sculptures extraordinaires où on est déséquilibré quand on passe au milieu. Donc voilà, je vous invite à aller à Bilbao, à l'étage inférieur du musée de Bilbao. Il y a plein de sculptures et vous verrez qu'on peut être déséquilibré en passant devant une structure monumentale de ce type.
Un musée absolument démesuré, le musée de Bilbao, il est formidable, absolument.
Merci pour ce coup de cœur. Benjamin Coria.
Non, moi, c'est moins gai. Voilà. Moi, c'est une alerte. C'est pas un coup de gueule. Ah. C'est une alerte. Bon, c'est que on a eu encore récemment une explosion de batteries, de stocks de batteries au lithium. Alors, moi, je trouve ça un peu inquiétant. C'est-à-dire, à un moment où la filière électrique prend de l'importance, et on comprend très bien pourquoi, que les mesures de prévention ne soient pas à la hauteur de l'ampleur du défi qu'on s'est donné. Donc c'est juste une alarme sur, tant qu'il est encore temps, renforçons la prévention.
C'est une industrie qui cherche ses marques à l'heure actuelle.
C'est ça.
Très clairement.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça. Mais...
regarde ce qui se passe sur le véhicule autonome, finalement. On est un petit peu, malheureusement, avec parfois quelques...
Oui. Non, c'est pour ça que je dis, c'est juste une alerte.
On est en train de se roder. Julien Damon, c'est à vous, mon cher Julien. 30 secondes.
Un mini coup de gueule, mais qui n'est pas très original. Je trouve que nos ministres ne devraient plus parler anglais. Alors, pourquoi je dis ça? Avec deux arguments un peu originaux par rapport à ce thème qui revient souvent et qui fait un peu arrière-garde. Le premier argument, c'est l'énervement. Je pense qu'il est judicieux que nos gouvernants, et ça compte aussi pour le président, s'expriment dans une langue que tout le monde comprend. Ça paraît idiot, hein, mais je pense qu'une partie des gens, lorsqu'ils voient à la télévision leurs dirigeants parler anglais, s'énervent. Et deuxième chose, c'est l'asservissement. Je pense qu'utiliser la langue de Shakespeare, c'est aussi la langue de Donald Trump, et c'est lui donner trop de pouvoir.
Enfin, pour les relations internationales et la diplomatie...
Et pourquoi donc?
Alors,
en entreprise, je le conçois.
On n'aura pas le temps, mais on va continuer le débat en sortant.
Il y a un ministre qui vous a énervé à parler anglais récemment?
Plusieurs,
oui, comme ça, vous dites. Bon, ouais.
Et quand Bruno Le Maire parle allemand, quand il sera à Berlin, qu'est-ce que ça vous inspire?
Bien, je n'ai jamais entendu parler allemand. Bon, je ne parle pas allemand, moi, mais je parle anglais. Lorsque je veux parler allemand, il est germanophone, très germanophone, je ne l'ai pas entendu parler lors de négociations, mais plutôt pour faire de la belle langue. Voilà.
Ça crée des liens, quand même, quelque part.
Non, mais très bien, mais que ça crée des petits liens. Mais que lorsqu'il s'exprime au nom du gouvernement sur des positions sérieuses, et lorsqu'il négocie, eh ben, il donne à ceux qui sont natifs un avantage, et il y a là de la possible perte de souveraineté.
Quand il était ministre des Affaires européennes, son discours d'astronisation, il l'a fait en allemand à Paris depuis Quai d'Orsay.
C'est vrai.
Bon, en attendant de parler allemand,
on
va écouter Gabriel Attal demain. On en reparlera bien sûr demain.
On va suivre ça.
En attendant, 19h55, c'est fini. Merci beaucoup, messieurs Benjamin Coria, Bruno Coquet, Julien Damon. À très vite, avec plaisir, pour de nouvelles aventures. C'est fini pour ce soir.
Oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Ceci dit, pas de panique. Le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est sur toutes les plateformes, en replay, en podcast, sur le site bfmbusiness.com. Et puis, nous, on se retrouve demain.
Bien sûr qu'on se retrouve demain, 18h-20h. Dans un instant, François Sorel, Tekkenco en direct. Très bonne soirée à toutes et à tous.
À demain.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.